Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes dans ta sainte présence. Si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour nous rassembler autour d'un homme ou d'une église, mais c'est pour nous rassembler autour de toi, Seigneur. Tu es le centre de cette réunion et tu es le centre de cette convention. Alléluia! Nous sommes venus pour t'acclamer, Seigneur. Nous sommes venus pour te glorifier. Nous voudrions voir Jésus. C'est là notre prière. C'est là ma prière aussi, Seigneur. Oh, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Et nous voulons rester cachés derrière ta croix. Car, Seigneur, nous ne sommes rien. Tout ce que nous le sommes par grâce. Tout nous vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi nos cœurs se courbent encore devant toi et te donnent toute la gloire. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Que ton Saint-Esprit vienne au milieu de nous. Enseigne-nous par ta parole. Éclaire-nous, Seigneur. Ouvre notre esprit comme tu l'as fait à tes disciples autrefois. Ouvre notre esprit et notre intelligence. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire maintenant encore. Nos yeux sont sur toi et que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu feras pendant cette convention, Seigneur. D'avance, nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Combien nous avons besoin de la présence de Dieu, n'est-ce pas vrai? Chers amis, la Pentecôte, c'est la fête de la présence de Dieu. C'est l'Esprit Saint répandu sur son peuple. Alléluia! Et lorsque le Saint-Esprit est répandu sur son peuple, alors l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Alléluia! C'est pourquoi le Saint-Esprit veut se manifester pendant ce week-end. Attendons-nous à lui. Il veut faire de grandes choses, le croyez-vous? Mais dès le début, que tous nos regards soient fixés sur lui et sur lui seul. Alléluia! Il veut nous parler. Il veut nous faire du bien. Que son nom soit béni. Ce que je voudrais apporter comme premier message, c'est précisément sur la présence de Dieu. Quels sont les signes de la présence de Dieu au milieu de nous. Quels sont les signes de la présence de Dieu au milieu de nous? Bien souvent, nous nous faisons des illusions, nous pensons que Dieu est avec nous, mais il n'est pas avec nous. N'est-ce pas vrai? Samson, à un moment donné, il a cru que Dieu était avec lui, mais l'esprit s'était retiré de lui. Bien des fois, nous nous convainquons nous-mêmes que Dieu est là, mais il n'est pas toujours là. C'est pourquoi il est important de voir, de reconnaître les signes de la présence de Dieu. J'en ai noté quelques-uns ici. Nous allons en voir ensemble maintenant. Et avant de commencer, nous allons lire ce passage bien connu dans les Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, acte 2, les quatre premiers versets. le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Et Actes 1:8, le verset clé des Actes des Apôtres, pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi l'action du Saint-Esprit? Mais Jésus a dit, mais vous serez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, les choses changent. Nos vies changent. Et Dieu commence à se manifester, nous envoyer dans le monde entier. Alléluia! Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres et que vous remarquez les endroits où le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples, vous remarquez une chose, que lorsque le Saint-Esprit descend, chaque fois il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ou tous baptisés dans le Saint-Esprit, ou ils parlèrent en langue et glorifièrent Dieu. Remarquez une chose, tous, il y a là une petite pensée très importante. Bien souvent, nous disons, et on entend dire cela, « Oh, il ne faut pas trop parler du Saint-Esprit, car ce message divise. » Vous n'avez pas entendu ça? Mais c'est ce qu'on entend du matin au soir. Et du soir au matin, parce qu'il y en a qui en rêvent aussi. Du soir au matin, ils en rêvent. On dit, « Oh, ah non, il faut prêcher Jésus, d'accord ? » Le Saint-Esprit, il ne faut surtout pas, ça c'est un message qui divise. Ah bon? Ah c'est un message qui divise? Avec les premiers chrétiens, c'était un message qui unissait. Alléluia! C'était un message qui unissait. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlèrent tous en d'autres langues. Tous! Avec les premiers chrétiens, le Saint-Esprit ne divisait personne. Au contraire, le Saint-Esprit venait unir, les baptiser dans un même corps. Alléluia! Gloire à Dieu! Qui est-ce qui divise? Ce n'est jamais le Saint-Esprit. C'est les réactions de l'homme au Saint-Esprit. Ce sont nos réactions négatives, nos traditions, nos fausses conceptions. Tout cela divise, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, lui, unit toujours. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors qu'on ne vienne pas nous dire que nous divisons les chrétiens, ce sont ceux qui s'opposent au Saint-Esprit qui divisent le peuple de Dieu. Alléluia. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Alléluia un peu plus fort. Alléluia! Non, mes amis! Le Saint-Esprit vient pour unir. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui rouspètent? Eh bien, ils n'ont qu'à se soumettre au Saint-Esprit. S'ils se soumettent au Saint-Esprit, tout ira bien. Et lorsque cette soumission est là au Saint-Esprit, mes amis, il y a une merveilleuse unité au milieu de nous. Amen. Et la force des premiers chrétiens, c'était précisément cette unité spirituelle. N'est-ce pas vrai? Le jour de la Pentecôte, il est dit qu'ils priaient tous ensemble d'un même accord. Et plus loin, il est dit qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. Il y avait une profonde unité. Lorsque les premiers chrétiens se rassemblaient, et voilà pourquoi l'Esprit de Dieu pouvait agir avec une telle puissance au milieu de nous, au milieu d'eux. Et il en sera de même au milieu de nous, si nous sommes unis, unis du plus profond de notre cœur autour de la personne de Jésus. Alléluia! Ceci est très important. Que de fois nous nous rassemblons et nous sommes étonnés que Dieu n'agisse pas. Parce qu'il n'y a pas cette profonde unité spirituelle. Chacun tire de son côté, n'est-ce pas vrai? Chacun tire de son côté. Moi ceci, moi cela. Moi de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas. Et les autres qui étaient les plus spirituels, les super spirituels, ils disaient moi de Christ. Ceux-là, ils n'avaient déjà plus les pieds sur la terre, ils étaient déjà au ciel, ceux-là. Et c'est peut-être ceux-là qui font le plus de problèmes encore. Lorsque le Saint-Esprit agit, nous ne voyons qu'une seule personne, Jésus. Amen. Et alors, il y a une profonde unité autour de la personne de Jésus. Car le Saint-Esprit a été répandu pour quoi faire? Pour glorifier un homme? Pour glorifier une église? Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Témoins de qui? Mes témoins. Témoins de qui? Un peu plus fort. Témoins de Jésus. Témoins de Jésus. Plus vous êtes remplis du Saint-Esprit, plus vous parlez de Jésus. Il y en a aujourd'hui qui se prétendent remplis du Saint-Esprit. On n'entend presque jamais le nom de Jésus dans leur bouche. Mais le nom de leur église, on l'entend au moins 90 fois, 100 fois. Ah, de leur église? Ah oui, alors eux. Ou alors, si ce n'est pas leur église, il y en a qui parlent de leur église. Mais il y en a d'autres qui parlent d'eux-mêmes. Vous les entendez et ils ne parlent que d'eux. Et ils ont la prétention d'être remplis du Saint-Esprit. Ou alors de leur église, de leur mouvement. Cela est la preuve évidente que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous parlerons et nous glorifierons Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu! Quels sont les signes de la présence de Dieu au milieu de nous? Le premier signe est celui-ci. C'est la prédication de la croix. J'insiste bien. Le premier signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est la prédication de la croix. Pentecôte, que veut dire Pentecôte? Vous le savez comme moi. Que veut dire Pentecôte? Le mot lui-même veut dire 50 jours après Pâques. Donc, quel est le message qui est lié à la Pentecôte? C'est le message du sang de Jésus, de la croix de Jésus, pour que Jésus a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Autrement dit, le Saint-Esprit ne descend jamais là où il y a d'abord l'action du sang de Jésus dans nos vies. Amen. Il ne peut y avoir d'action du Saint-Esprit au milieu de nous, mes amis. La présence de Dieu ne vient pas n'importe où. On ne peut pas crier comme cela la présence de Dieu pour qu'elle vienne. La présence de Dieu ne vient jamais là où le sang de Jésus n'a pas été reçu comme le pardon de nos péchés, comme le moyen que Dieu a utilisé pour racheter nos âmes. Alléluia! Autrement dit, il n'y a pas de Pentecôte sans croix. Il n'y a pas de Pentecôte sans croix. Avant d'aller à la chambre haute, tu dois d'abord te courber au pied de la croix pour recevoir le pardon de tes péchés. Aucun homme, aucune femme n'expérimentera la présence de Dieu dans sa vie si d'abord cette personne ne vient pas au pied de la croix pour recevoir le pardon de ses péchés. Et comment sommes-nous purifiés de nos péchés? Par le sang de Jésus. Alléluia. Voilà une vérité importante, mes amis. Lorsque nous lisons les actes des apôtres, lorsque vous lisez acte 2, par exemple, toute la prédication de l'apôtre Paul, quand il s'écrie devant la foule qui est là, en disant, « Vous avez crucifié le maître, le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts, mais vous l'avez crucifié, Dieu l'avait prévu. » Et chaque fois, l'apôtre Paul revient avec ce message de la croix, comme pour dire, « Si vous voulez expérimenter la présence de Dieu, il faut d'abord que vous soyez purifiés de vos péchés par le sang de Jésus. » Alléluia! C'est pourquoi le péché nous prive de la présence de Dieu. Pendant ce week-end, Dieu vous parlera. Si vous voulez expérimenter sa présence, il faudra absolument mettre de côté tout péché connu dans votre vie. Il faut absolument que le sang de Jésus vienne laver tout ce qui lui est, qui déshonore Dieu. Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Tes péchés sont-ils lavés dans le sang de l'agneau? Peux-tu dire avec assurance, Jésus a payé ma dette en mourant sur la croix, et grâce à son sang, je suis purifié de tout péché. Alléluia! Seulement, là où le sang est confessé, le Saint-Esprit peut descendre au milieu de nous. Mais quelqu'un qui caresse un péché dans sa vie, quelqu'un qui ne veut pas se laisser purifier par le sang de Jésus, que cette personne ne se fasse pas d'illusions. Elle aura beau crier, beau jeûner, beau pleurer, beau faire n'importe quoi. La présence de Dieu ne peut descendre là où le sang de Jésus n'a pas été invoqué pour purifier nos péchés, nos consciences de toute œuvre morte. Mes amis, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, lorsque la présence de Dieu est là, nous n'avons aucune envie, c'est de dire, « Oh Seigneur, Seigneur, malheur à moi car j'ai vu l'Éternel, malheur à moi car je suis impur. » Combien de fois nous voyons cela avec les prophètes de l'Ancien Testament? Tous ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu ont eu cette vision-là. Amen. Aujourd'hui, nous sommes un peu trop légers avec la présence de Dieu. Autrefois, il y avait cette sainte crainte de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons perdu cela. Cela n'empêche pas que nous devons être joyeux, pas du tout, nous allons le voir. Mais cela veut dire que si nous voulons que la présence de Dieu vienne, il nous faut mettre nos vies en règle avec Dieu. Amen. Amen. Tout commence à la croix, mes amis. La Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Après. Il n'y a pas de Pentecôte sans croix. Tu ne pourras pas expérimenter la puissance de Dieu, la présence de Dieu, si tu ne viens pas au pied de la croix. Et si tu ne blanchis pas ta robe dans le sang de l'agneau. S'il y en a au milieu de nous qui n'ont pas encore fait cette expérience d'être purifiés par le sang de Jésus, vous pouvez la faire cet après-midi. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu veut nous aider à réaliser. L'Esprit de Dieu nous dit, mon enfant, ton péché, ta souillure, c'est un obstacle entre Dieu et toi. Le péché nous sépare de Dieu, ne l'oubliez pas. Le péché nous sépare de Dieu. Nous ne pouvons pas garder quoi que ce soit de mauvais dans notre cœur et expérimenter la présence de Dieu, ce n'est pas vrai. Un signe de la présence de Dieu au milieu de nous, c'est que constamment nous revenons à la croix. Alléluia! Constamment nous purifions nos cœurs de toute souillure, de toute impureté. Nous purifions nos pensées. Nous purifions notre regard aussi. Nous purifions nos mains de toute mauvaise œuvre. Nous purifions nos oreilles. Nous entendons des choses qui déplaisent à Dieu. Nous devons purifier nos pieds. Nous allons dans des endroits qui déshonorent Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu et ensuite avec ses mêmes pieds aller à un endroit qui déshonore Dieu, où Dieu n'y est pas. Un signe de la présence de Dieu au milieu de nous. Et cela s'est vu dans tous les réveils, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons les réveils, réveil de Pays de Galles par exemple, combien de fois tout était centré autour de la croix de Jésus. Constamment la croix était magnifiée, parce qu'il réalisait que seul le sang de Jésus nous purifie et nous rend agréable à Dieu le Père. Amen. Vous ne pouvez pas vous rendre agréable vous-même par vos propres œuvres, par vos expériences spirituelles. Vous ne pouvez pas. Seul le sang de Jésus, lorsqu'il purifie nos cœurs et nos consciences, nous rend agréable et nous permet de venir dans la présence de Dieu sans aucune honte. Purifié de toute souillure. Alléluia! Mes amis, la preuve que le Saint-Esprit sera au milieu de nous, c'est que plusieurs d'entre vous, vous serez repris dans votre péché. Vous serez troublés. Le Saint-Esprit mettra le doigt sur quelque chose qui doit être purifié. Ça, c'est le signe que Dieu est au milieu de nous. C'est un signe que Dieu est au milieu de nous. Mais combien, mes amis, certains se prétendent être remplis du Saint-Esprit, mais ils restent toujours les mêmes. Ils gardent toujours ce regard impur. Ils ont toujours des paroles impures dans leur bouche. Leurs mains font des choses toujours impures. Et leurs pieds sont impurs. Et cela dure pendant des années et des années. Mes amis, lorsque le Saint-Esprit est là, alors nous réalisons combien nous devons constamment nous purifier. Amen. Et cela est une bonne chose, mes amis. Cela est une très bonne chose. Lorsque le sang purifie nos péchés, alors la présence de Dieu vient au milieu de nous. Amen. Alléluia. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai réalisé que j'étais souillé. C'était l'Esprit de Dieu qui me révélait cela. Souillé dans mes pensées. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Purifie-moi. Que ton sang me lave. Je le faisais sincèrement. Et au moment où je l'ai fait, un fardeau est parti de moi. Et la présence de Dieu est venue. Que c'était glorieux. Alléluia! Beaucoup d'entre nous, nous avons perdu le sentiment de la présence de Dieu. Parce que nous jouons avec le péché. Mes amis, que Dieu nous aide à être sérieux avec lui. Amen. À être sérieux avec lui. Lorsque Dieu nous montre quelque chose, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous rejeter. Attention, là aussi, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Il y en a qui disent, oh mais moi je souffre, alors je suis pécheur, voyez-vous. C'est l'autre extrême. Il n'arrive pas à saisir le pardon de Dieu. Je lisais le témoignage d'une jeune fille qui est venue voir sa maman. Et la jeune fille venait de casser un vase très précieux. Et alors, elle est venue vers sa maman en disant, « Maman, pardonne-moi, tu vois, j'ai cassé ce vase, pardonne-moi. » Puis elle était vraiment triste d'avoir cassé ce vase. Et la maman, voyant que sa fille était vraiment attristée de cela, elle lui dit, « C'est bien, ma fille, je vois que tu te repens sincèrement du mal que tu as fait. » Alors, tu es pardonné maintenant. Va jeter ce vase brisé dans la poubelle et c'est fini maintenant. Le lendemain, la fille, en se levant, elle va directement à la poubelle. Elle prend de nouveau ce vase brisé et elle vient vers la maman en disant, « Maman, pardonne-moi s'il te plaît. Le vase que j'ai brisé hier. » Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Rejette. Va vite jeter ce vase brisé à la poubelle et rappelle-toi d'une chose, rappelle-toi que du pardon de Dieu maintenant. Et c'est ainsi que nous devons faire. Combien d'entre nous revenons continuellement avec le même péché? Si vous vous êtes sincèrement repenti, la Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia! Lorsqu'il pardonne, il purifie. Et il te dit, mon enfant, maintenant va et ne pêche plus. Ton péché a été expié. Ne revenons pas tous les jours devant le Seigneur. N'allons pas tous les jours à la poubelle. à la poubelle de nos péchés confessés et les ramener au Seigneur. Le Seigneur dit, allez, va vite là-bas, va jeter ça à la poubelle. Et rappelle-toi d'une chose, que de mon pardon, puisque tu t'es sincèrement repenti. Alléluia! Gloire à Dieu! Croyons et recevons son pardon. Et la présence de Dieu viendra sur nous. Il n'y a pas de Pentecôte sans croire, mes amis. Le Saint-Esprit ne descend jamais là où le sang n'a pas été appliqué. Nous voyons cela dans toutes les Écritures. Allons un peu plus loin maintenant. Un deuxième signe de la présence de Dieu au milieu de nous, c'est un esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance est une preuve que le Saint-Esprit agit au milieu de nous. C'est une preuve de la présence de Dieu au milieu de nous. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 32, il est dit ceci. Nous sommes témoins de ces choses, disent les apôtres. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voyez-vous, le Saint-Esprit est en rapport avec notre obéissance. Autrement dit, plus nous sommes obéissants à ce que Dieu nous montre, plus le Saint-Esprit agira dans notre vie. Certains commencent bien, ils obéissent pendant un mois, un an, mais après, à cause de je ne sais quoi, ils cessent d'obéir. Ils commencent à tourner en rond, et dès qu'on cesse d'obéir, le Saint-Esprit cesse d'agir au milieu de nous. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Voyez-vous, le Saint-Esprit vient sur des gens qui veulent lui obéir. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit dans Acte 1 au début ? Acte 1 au début, voici ce qu'il est dit. Il est dit au verset 3, après qu'il eut souffert, il... au verset 2 déjà. Il est dit, Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses... C'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Ses conseils ? Ses désirs ? C'est quoi ? Ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Avant de monter au ciel, Jésus a donné des ordres. Et quels étaient ses ordres? C'était d'attendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Combien ont été baptisés dans le Saint-Esprit? 120, n'est-ce pas, à peu près, il est dit. Mais vous savez que Jésus s'est manifesté à plus de 120 personnes. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit ceci. C'est très important de lire ça. Il est dit que Jésus s'est manifesté une fois à plus de 500 frères à la fois. 1 Corinthiens 15, au verset 6, il est dit ceci. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. À ces 500, il leur a tous dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en avait 500 le jour de la Pentecôte? Et où sont les autres? Les 380, où ils sont? Ils n'ont pas obéi. Est-ce qu'ils ont reçu? Ils n'ont rien reçu. Peut-être qu'ils ont pensé qu'ils n'en avaient pas besoin, comme beaucoup pensent aujourd'hui qu'ils n'en ont pas besoin. Mais en attendant, ils n'ont pas obéi et ils n'ont pas reçu ce que Dieu voulait leur donner. Voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit agit dans nos vies et au milieu de nous, il y a toujours cet esprit d'obéissance aux ordres du Seigneur. Nous disons, Seigneur, me voici, tu es le maître et je suis le serviteur, tu es le capitaine et je suis ton soldat. Alléluia! Mes amis, ceci est très important. Un signe que Dieu agit au milieu de nous, c'est que lorsque nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, les soldats du Seigneur, nous disons, maître, capitaine, je suis à ton service, je veux t'obéir. Si tu me parles, j'obéirai. Si tu me parles, je changerai. Si tu me montres quelque chose, je veux changer. Combien d'entre nous, nous faisons exactement le contraire? Nous prions bien pour que Dieu nous aide, mais lorsque Dieu nous montre quelque chose, on lui dit, c'est surtout pas ça, Seigneur. Je voulais bien que tu montres autre chose, mais pas ça. Ça, c'est un peu trop compliqué. Je ne veux pas que tu changes ça et on discute avec le maître. On veut bien changer, mais c'est nous qui devons décider. En disant, Seigneur, je veux bien que ça change, mais c'est moi qui dois décider dans ce domaine-là. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons qu'un désir, c'est de faire sa volonté. Alléluia! Ça, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Lorsque les chrétiens disent, Seigneur, me voici, je veux t'obéir. Et Dieu va vous parler pendant ce week-end, mes amis. Dieu n'est pas seulement là pour nous entretenir, en nous disant de belles choses. Jésus lui-même a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas tout ce que je vous dis. Le Seigneur n'est pas là pour nous entretenir, pour que vous entendiez des beaux discours, pour que moi j'entende des beaux discours. Le Seigneur n'est pas là pour cela. Le Seigneur est là comme un maître qui parle à ses élèves. Il veut que nous lui obéissions, comme un soldat, comme un capitaine qui parle à ses soldats. Voulez-vous lui obéir? Si vous lui obéissez, vous verrez que le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, combien viennent aussi parfois? On entend des échos. Ah, mais ils ont prié, puis je n'ai pas été béni. Et puis ceci, il n'y a pas eu ceci, cela. Mais comme si tout dépendait de nous. Mais eux, ils ne veulent pas changer. C'est le pasteur qui doit tout faire. Il doit se mettre en quatre pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Mais eux, changer et obéir au Seigneur, ça ne leur vient pas à l'esprit. Comment? Obéir? Oh non, c'est fini tout ça. Et alors nous sommes déçus. Et nous repartons tout tristes. Mais vous ne repartirez pas tout tristes, mes amis. Si vous voulez obéir au Maître. Amen. Il vous parlera. Il veut vous bénir. Mais dites-lui tout simplement, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux changer. Je veux changer. Je veux te glorifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un troisième signe maintenant de la présence de Dieu au milieu de nous, c'est l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration. Lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il est dit qu'il glorifiait Dieu. Et les gens qui étaient là disaient, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ailleurs, il est dit que tout le peuple, c'est-à-dire en fait tous les chrétiens, louaient Dieu. Il y avait un esprit d'adoration extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était là. Écoutez-moi bien maintenant. Présence de Dieu et adoration de Dieu vont ensemble, toujours. Maintenant dans le ciel, là où il y a la présence de Dieu, personne ne peut se tenir dans la présence de Dieu sans l'adorer. Amen. Personne. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu sans l'adorer. Jour et nuit, la multitude qui est là, les 24 vieillards qui sont là, les 4 êtres vivants qui sont là autour de l'agneau, jour et nuit, ils louent l'Éternel. Et ils s'écrient « Saint, Saint, Saint l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient, est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles, et jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, continuellement, dans la présence de Dieu, ils adoraient, mes amis, le signe que Dieu est au milieu de nous, c'est quand il y a un esprit d'adoration. Amen. Car laissez-moi vous dire une chose, si nous n'adorons pas le Seigneur, alors c'est parce que nous adorons quelqu'un d'autre. C'est parce que nous pensons à quelqu'un d'autre. C'est parce que la chair, l'homme a pris le dessus. Veux-tu expérimenter la présence de Dieu? Mon ami, si tu veux expérimenter la présence de Dieu pendant ces quelques jours, adore Dieu. Courbe-toi devant lui. Dis-lui, ô Seigneur, pardonne tout ce qui te déshonore dans ma vie. Dis-lui, je viens t'obéir maintenant. Me voici pour faire ta volonté, non la mienne. Lorsque vous êtes dans cette disposition-là, alors l'adoration jaillira de votre cœur et de vos lèvres. Amen. Alléluia. Car adorer veut dire se courber pour baiser la main du Maître. Se courber dans un esprit de soumission, dans un esprit d'amour, dans un esprit de contemplation. adorer Dieu, c'est expérimenter la présence de Dieu. Si vous le faites de tout votre cœur, mes amis, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'expérimenter la présence du Seigneur. Amen. Mais il faut le faire de tout votre cœur. Faisons-le, mes amis, adorons le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voyons cela dans les actes des apôtres. Quel esprit d'adoration. L'homme ne comptait plus. Dès qu'il se trouvait, les regards étaient fixés sur l'agneau. Les regards étaient fixés sur celui qui avait donné sa vie pour eux. Amen. Mes amis, beaucoup de gens pensent qu'adorer Dieu, c'est superflu. Qu'adorer Dieu, c'est inutile. Alors ces gens-là révèlent une chose, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Quelqu'un qui parle ainsi ne connaît pas la présence de Dieu. Parce que s'il adorait de tout son cœur, s'il avait adoré de tout son cœur, la présence de Dieu se serait manifestée à lui. Et il verrait combien c'est merveilleux, extraordinaire d'adorer le Seigneur. Amen. Nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est là le premier ministère du chrétien. Es-tu fidèle à ton premier ministère? Avant de servir les hommes, tu es appelé à servir Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Mes amis, lorsque nous adorons en esprit, en vérité, au travers du sang de Jésus, lorsque nous adorons notre Père de tout notre cœur, l'Esprit de Dieu vient au milieu de nous. Alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu est là, mes amis, de grandes choses peuvent se passer. Et vous allez le voir dans les mois, dans les années qui viennent, le peuple de Dieu va expérimenter encore une plus grande puissance dans l'adoration. Et de grands miracles vont se manifester lorsque le peuple de Dieu adore. De grands miracles. Alléluia. Parce que c'est là que le peuple de Dieu adore et a les regards sur lui et sur lui seul. Que de fois nous avons les regards sur l'homme. Et après nous sommes déçus. Ah, moi je pensais que ça allait marcher. Ah bon, ça allait marcher? C'est quoi? C'est la loterie ça? J'ai pensé que lorsqu'il allait appuyer sa main sur ma tête, et puis qu'il allait appuyer fort, j'ai pensé que ça allait marcher. Il m'a imposé les mains, ou ils m'ont imposé les mains, j'ai rien eu. J'ai rien senti. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on regarde à l'homme. Cela veut dire qu'on s'attend à l'homme. La parole de Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais bienheureux l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Si tu te confies dans l'homme, tu seras déçu. La chair ne sert de rien. Vous ne pouvez rien, je ne peux rien, mais il y a au milieu de nous quelqu'un qui peut tout. Alléluia. Et il voudra tirer notre regard, il voudra tirer ton regard. N'ayez pas les regards sur les serviteurs de Dieu qui vous parleront, ou sur les autres peut-être qui vous parleront. On n'est que des instruments pour vous amener la bénédiction, mais la source est Jésus. Amen. Nous ne sommes que des instruments. Et dans l'adoration, il y a la purification de tout cela. Il n'y a plus le regard sur soi, et il n'y a plus le regard autour de soi. Il y a le regard au-dessus de soi. Alléluia. Et nous avons besoin de cela. Un esprit d'adoration. Ah, quand il y a cela, c'est un signe que la présence de Dieu est au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque la présence de Dieu est là, il y a un quatrième signe. C'est un esprit de sainteté. Amen. L'esprit de sainteté. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence d'un Dieu saint. 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 Oh, alléluia. Et là encore, constamment, nous devons veiller à ce que notre vie soit purifiée continuellement par le sang de Jésus. Et vous savez, beaucoup pensent qu'en parlant de sainteté ou de sanctification, malheureusement, beaucoup ont parlé de ces choses dans un esprit négatif. Beaucoup pensent être sanctifiés ou être saints. Vous savez, pas à cause de quoi? À cause de certains habits qu'ils portent.
ou à cause d'un voile qu'ils ont sur la tête. Et ça y est, tout à coup, c'est des personnes saintes. À cause d'une attitude ou d'une apparence extérieure. On pense qu'on est saint. Mes amis, la vraie sainteté biblique n'est pas cela. La vraie sainteté biblique, c'est ressembler à Jésus. Amen. Voilà. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. C'est nous transformer à l'image de Jésus. Alléluia. Une fois un missionnaire prêchait dans un pays étranger. Il prêchait aux indigènes qui étaient là. Et pendant qu'il prêchait du Seigneur, en disant combien Jésus était merveilleux, il parlait de son caractère, de son amour, de sa bonté, de sa patience, de sa fidélité, de son humilité. Et pendant qu'il parlait ainsi, un indigène s'est levé et a dit, « Mais moi je connais ce monsieur, il habite dans notre village !» Il parlait du missionnaire qui habitait là. Le missionnaire qui habitait dans le village correspondait à la description de ce que ce serviteur faisait du Seigneur. Quel beau témoignage, n'est-ce pas? Mais il est là, il est dans le village. Il est là. Des premiers apôtres, on les reconnaissait à quelque chose de précis. C'est qu'ils avaient été avec Jésus. Alléluia. Mes amis, quand on a été avec Jésus, on ne peut plus être la même personne. C'est impossible. C'est impossible! Quelqu'un ne peut pas voir Dieu, rencontrer Dieu et être la même. C'est impossible. Oh, que notre plus grand désir soit de ressembler au Maître. Amen. Ça, c'est le signe que Dieu est au présent au milieu de nous. Quand les chrétiens désirent ardemment ressembler au Seigneur, bien sûr, c'est bien d'être béni, d'être guéri, d'être délivré, d'être baptisé dans cet esprit. Mais la plus grande bénédiction, toutes ces bénédictions ont un but. Ce but, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Alléluia. Il ne faut pas être comme celui-là qui, un jour, était venu dans une église et on avait prié pour lui, il avait été guéri. Et un jour, le pasteur le rencontre dans la rue en disant, et le pasteur le voit. Il dit, alors, pourquoi tu ne viens pas? Est-ce que tu n'as pas été béni l'autre jour à l'église? Il dit, oui, j'ai été guéri. Alors, mais il dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Ah ben, j'ai été guéri, ça suffit, c'est fini, ça suffit. Il était venu pour être guéri. Mais viens à l'église. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire à l'église? J'ai rien à faire, j'ai été guéri, c'est pour ça. Voyez-vous quelle ignorance. Même si nous sommes guéris, même si nous sommes bénis, si nous n'avons pas décidé dans notre vie d'être semblables à Jésus, nous n'aurons jamais de satisfaction profonde. Notre vie chrétienne sera profondément insatisfaite, n'est-ce pas vrai? Mais il y a d'abondante joie pour celui qui veut suivre le Seigneur et marcher sur ce chemin de la sainteté. Alléluia! Une grande grâce, est-il dit des apôtres, reposait sur eux. Et le mot grâce veut dire une faveur imméritée selon la Bible. Mais il y a un deuxième sens. Le mot grâce veut dire charmant. Charmant. Il y a la pensée de beauté avec l'expression de grâce. Autrement dit, leur visage, leur attitude, leur comportement reflétaient la personne et la beauté de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, cette présence était tellement forte que lorsque Pierre traversait les rues, on amenait tous les malades qui étaient autour de lui, qui étaient là, dans la ville, et là où son nombre touchait les malades étaient guéris. Alléluia. Alléluia. C'était la présence de Dieu dans son serviteur. Mes amis, Dieu veut nous conduire encore plus loin, le croyez-vous? Alléluia. Et je vais terminer par cette note maintenant. Un cinquième signe de la présence de Dieu, c'est un esprit de joie. Alléluia. Vous dites, mais comment? Je ne sais pas si ça va bien ensemble. La sainteté et la joie, est-ce que ça va ensemble? Ah oui, ça va justement ensemble. Il y en a qui pensent que ça s'oppose, ça. Ça ne s'oppose pas du tout. Parce que lorsque notre vie est en règle avec Dieu, alors plus personne ne peut nous arrêter. Amen. Quand notre vie est en règle avec Dieu, quand nous n'avons plus rien à nous reprocher, quand nous savons que nous avons tout mis dans la lumière, alors mes amis, il n'y a plus rien qui vous retient. Vous commencez à sauter de joie. Alléluia. Et l'apôtre Pierre dit, acte 2, verset 28, il est dit, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Alléluia. Voyez-vous, la présence de Dieu apporte la joie. Et ça, c'est un autre signe de la présence de Dieu au milieu de nous, un esprit de joie. Mes amis, là où vous ne voyez pas de joie au milieu des chrétiens, vous êtes le premier à douter que Dieu n'est pas là, n'est-ce pas vrai? Malheureusement, que de chrétiens tristes. Mais lorsque l'esprit de Dieu est là, il y a un esprit de joie. Et cet esprit de joie est une force extraordinaire. La joie de l'Éternel sera notre force. Gloire à Dieu. Alléluia. Je lisais le témoignage, et je vais terminer par cela, d'un monsieur pour vous montrer la puissance de la joie. Lorsqu'il y a un esprit de joie au milieu de nous, cette joie est pour notre équilibre et notre santé spirituelle, mentale et physique. La joie est une puissance. La joie de l'Éternel sera votre force. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque la force qui est en Dieu nous pénètre, lorsque nous nous réjouissons en Dieu, parce que Dieu est un Dieu joyeux, lorsque sa nature qui est joyeuse pénètre en nous, c'est la force qui pénètre en nous. Sa joie est notre force. Être joyeux, c'est être fort, pas seulement spirituellement, mais physiquement aussi, moralement. La joie est une puissance extraordinaire. Je vais vous donner ce petit témoignage, ça m'a étonné, c'est quelque chose. Même un inconverti peut expérimenter cela. C'est le témoignage d'un homme qui était paralysé pratiquement, avec de l'arthrose, de l'arthrite, tout ça, enfin il était complètement paralysé. Et tous les médicaments n'avaient absolument rien fait. Et un jour on lui a dit, mais tu sais que la joie, rire, c'est une puissance extraordinaire. Il ne le savait pas, mais il a ouvert ses oreilles. Il a dit, bon, ben d'accord, puisqu'il avait tout essayé et que ça n'avait pas marché. Et il a dit, bon, ben, je vais essayer ça. Parce que ça n'allait pas du tout. La médecine l'avait complètement abandonné. Alors, ce qu'il a fait, il a dit, bon, ben, maintenant, puisque vous ne pouvez plus rien faire pour moi à l'hôpital, s'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôtel. Je vais louer une chambre d'hôtel. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Emmenez-moi là-bas à l'hôtel. Et je veux qu'il y ait une petite télé là-bas. Et je vais passer certains petits films très, très rigolos. C'était un inconverti. Et alors, il s'est mis devant cette télé, devant ces petites choses-là, et qui faisait rire. Et lui-même, il a commencé à se forcer à rire. Parce que c'était son médicament. Un cœur content est un bon remède, nous dit la Bible. Ne l'oubliez pas, ça c'est biblique. Un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, 22. Alors on lui a dit, tu dois rire si tu veux qu'il se passe quelque chose. Et lui, il s'est étendu et il a commencé à rire, mais de tout son cœur. Et il a remarqué que quand il riait 10 minutes comme cela, il arrivait à mieux dormir la nuit, parce que la nuit, il ne dormait pas du tout. Alors ça l'a encouragé. Et il a continué pendant des heures à rire, à rire, à rire, à rire. Mais vous savez qu'au bout de quelques jours, il n'était plus à l'hôtel. Il était complètement guéri. Et il a dû recommencer son travail. Il a pu recommencer son travail. Enfin, il a dû. J'espère en tout cas pour lui. Sinon, il serait retombé malade encore. Mais ceci pour vous dire qu'il y a une puissance extraordinaire dans la joie. Amen. Je lisais aussi cet autre témoignage, je termine. C'était cette fois un chrétien. Lui, il venait de se convertir. Et malheureusement, il avait une maladie incurable. Et on lui avait dit aussi, il était à l'hôpital. Décidément, on est à l'hôpital ce soir. Mais c'est bon, quand le Seigneur est à l'hôpital, c'est bon. Amen. Alors, on lui a dit, d'ici demain matin, c'est terminé pour vous. Vous avez une maladie incurable, vous n'en sortirez pas. Et ce soir-là, quelqu'un a eu à cœur de lui parler du Seigneur. Et il est allé lui parler du Seigneur. Et Dieu soit béni, cet homme s'est converti. Il a donné son cœur au Seigneur et il était heureux. Et le monsieur ne lui a rien dit qu'il allait mourir le lendemain et tout. Il ne savait rien du tout, lui. Mais alors lui, comme il a fait cette découverte de la conversion, cette expérience de la nouvelle naissance, d'une vie nouvelle avec Christ, alors il s'est réjoui toute la nuit. toute la nuit, il a ri, il s'est réjoui, vraiment réjoui. Le lendemain matin, les docteurs sont venus pour l'emmener dans une drôle de direction. Qu'est-ce qu'il voit, notre ami ? Complètement guéri. Il n'était plus malade, plus rien du tout. Et il était prêt à rentrer à la maison lui aussi. Et comment a-t-il été guéri ? Même pas en demandant la guérison, il n'a même pas demandé la guérison, mais il a fait l'expérience de ce verset, un cœur content est un bon remède. Mes amis, beaucoup d'entre nous ici, nous pouvons être guéris uniquement en nous réjouissant devant la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas un service que vous nous rendez lorsqu'on vous dit de vous réjouir. Vous ne faites pas cela pour faire plaisir au pasteur ou au prédicateur. C'est le plus grand service que vous puissiez vous rendre à vous-même. À vous-même. Que de fois nous sommes tristes, nous sommes dans la dépression. On est là toujours en train de tourner dans nos problèmes. Oh, si vous saviez, oh, si vous saviez. Mes amis, il y a une puissance extraordinaire dans la joie. Nous devons découvrir cela. Peut-être que ta guérison dépend de cela. Tu as tout fait. Maintenant, réjouis-toi. Alléluia. Et la joie de l'Éternel sera ta force. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Levons-nous maintenant. Levons-nous et glorifions le Seigneur quelques instants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Levons les bras vers le Seigneur. Et bénissons le Seigneur quelques instants, tous ensemble maintenant. Alléluia. Dieu vous a parlé. Parlez au Seigneur maintenant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Te remercions pour les signes de ta présence. Merci pour la prédication de la croix. Merci pour le sang qui purifie. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour l'obéissance que tu mets dans nos cœurs. Merci pour l'esprit d'adoration. Merci pour l'esprit de sainteté. Merci pour l'esprit de joie. Alléluia. Qui sont les signes de ta présence au milieu de nous. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Qui se réjouira, sinon celui qui a été pardonné de ses péchés, sinon celui qui a été délivré de la mort éternelle. Qui se réjouira, Seigneur, sinon celui que tu as lavé par ton sang précieux et qui a l'assurance de la vie éternelle. Oh, je chanterai à l'Éternel. Je bénirai son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Restons dans le recueillement quelques instants. S'il vous plaît, restons quelques instants dans le recueillement. Alléluia.
Le Seigneur
me
montre.
Gloire à toi Seigneur.
Il voudrait faire une purification.
Amen, amen.
Spécialement parmi les jeunes. Mais enfin, pas seulement auprès des jeunes. Parmi les jeunes. Mais surtout parmi les jeunes, parce que notre Seigneur est un Dieu jaloux. Il désire que
gloire
nous l'adorions lui
toi,
seul.
Seigneur. Alléluia.
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et le Seigneur est là au milieu de nous. Et il veut purifier nos vies.
Alléluia, oui, Seigneur.
Il veut purifier la vie de ces jeunes qui ont d'autres idoles que le Seigneur. Peut-être un chanteur. Je ne sais. Leurs oreilles ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. C'est pourquoi ils ont beaucoup de peine à entendre la voix de Dieu. Et le Seigneur voudrait que, mon ami, jeune homme ou jeune fille,
alléluia.
Que tu adores le Seigneur ton Dieu, lui seul.
Amen.
Que tu lui donnes ta vie. Et que ce soit ta seule idole, entre parenthèses.
Alléluia.
Que tu n'aies d'autre Dieu devant lui que lui. Tu n'es pas appelé à admirer d'autres personnes que le Seigneur.
Alléluia.
C'est vrai, le Seigneur sait que quand on est jeune, on a de l'admiration pour un tel ou une telle. Mais le Seigneur aimerait que ton admiration dépasse, s'élève au-dessus de toutes ces personnes.
Alléluia.
Et aille vers lui.
Oh, Yamando, okay.
Le Seigneur voudrait que des jeunes reconsacrent leur vie ce soir.
Amen.
Il fait un appel à des jeunes ici.
Alléluia.
Pour que ils Ils consacrent leur vie, leurs pensées, leurs idées. Ils ont besoin que le Seigneur purifie leur vie. Parce qu'il y a tellement de tentations dans ce monde. Tellement de choses qui les ont souillées, qui ont souillé leurs oreilles, leurs pensées, peut-être leurs yeux aussi, leurs mains, leur corps. Mais le Seigneur ne vous fait pas de reproches ce soir. Il vous appelle.
Amen.
Il veut purifier votre vie. Il veut changer votre vie. Et vous n'y perdrez rien au change. Vous gagnerez tout au change.
Alléluia.
Car si vous laissez le Seigneur venir, Seigneur de votre vie, de vos pensées, alors vous aurez vraiment ce bonheur que vous recherchez tant, cette joie que vous recherchez tant. Parce que vous ne pouvez pas vraiment vous réjouir dans la face de Dieu si à côté de cela vos pensées vagabondes encore ailleurs sont prises par autre chose. Si vous avez écouté des choses que vous n'auriez pas dû entendre, si vous avez lu des choses que vous n'auriez pas dû lire, si vous avez regardé des choses que vous n'auriez pas dû regarder, notre Dieu est un Dieu saint, comme il a été dit dans le message. Elle voudrait, ce soir, sanctifier-nous.
Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que la présence de Dieu est là, nous allons faire un court appel maintenant à tous ceux qui voudraient justement répondre à cet appel, maintenant. Alléluia. Jeune ou moins jeune, si Dieu a parlé à votre cœur, maintenant c'est le moment de prier avec vous. Je vous demanderai de vous approcher ici, maintenant, tout de suite ici. Et nous allons prier pour vous maintenant. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes. Et les autres, approchez-vous maintenant. Restons dans la présence de Dieu. Ceux qui veulent maintenant qu'on prie pour eux, approchez-vous ici. Nous allons prier maintenant. L'Esprit de Dieu est là, mes amis. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous purifier.